Les Montmorency, noble famille illustre de France, ont existé du X au XXe siècle. Elles auraient eu pour ancêtre un compagnon de Clovis qui aurait été le premier à être baptisé par Saint Rémy. D'où leur devise Dieu aide au premier baron chrétien. Cette famille, en plus d'un grand nombre de titres et de châteaux, plus de 600 places fortes à travers le pays au XVIe siècle, a surtout d'illustres ancêtres, plus de 10 maréchaux, mais aussi des amiraux, des gouverneurs, des pairs et des cardinaux. Et surtout ce qui a fait sa grandeur si connétable, comme le plus connu de tous, Anne de Montmorency, qui s'illustre lors des guerres d'Italie, c'était le noble le plus influent au XVIe siècle. Les Montmorency, en plus d'être la famille noble la plus puissante, naviguent surtout entre faveur royale et rébellion. Cette querelle entre les deux a commencé dès l'établissement de la famille dans la ville de Montmorency. Dû à leur contrôle des routes pour Paris, ils empêchaient la famille royale de s'étendre et de se développer. La famille perd de son pouvoir au profit de la maison de Guise lors des guerres de religion au XVIIe siècle. Henri II de Montmorency est un noble illustre né en 1595 au château de Chantilly. Il est le filleul du roi Henri IV. À 17 ans, il se marie avec Marie-Félicie des Ursins et devient amiral de France et de Bretagne. Au cours de sa vie, dû à ses mérites militaires et les titres de sa famille, il devient amiral de Guyenne. Du Languedoc, dont il est gouverneur, c'était une terre qui a une longue histoire avec sa famille. Beaucoup de gouverneurs de Languedoc viennent de la famille de Montmorency. Il est aussi vice-roi de la Nouvelle-France, terre dans ce qu'aujourd'hui on connaît comme l'Amérique. L'amiral de France, le moins prestigieux de la cour, bien moins prestigieux que maréchal, brille dans les mains de ce noble novateur. Historiquement, l'amiral de France a charge de protéger les côtes et les marchands en temps de guerre, sans réel pouvoir sur la flotte royale. Et pourtant, il en est le commandement. Henri II se surpasse et cherche à égaliser avec les Anglais et leur forte puissance navale, coloniale et commerciale. Pour cela, il reconstruit l'administrité de la navale par la création d'un secrétariat de l'amirauté, un conseil de marine en 1624 et un comité de technique. De plus, il est très impliqué dans le commerce maritime par son rôle de vice-roi de la Nouvelle-France et sa volonté de créer une compagnie des Indes. Cela ne fait que renforcer la richesse et le pouvoir de sa famille. Mais autre qu'un noble illustre, il est aussi un commandant. En tant qu'amiral, Henri II a aussi une force présente militaire qu'il met à profit durant les guerres contre les protestants. Au cours de ces batailles, il acquiert reconnaissance, récompense et mérite pour ses victoires. Décrit comme entrepreneur et avec une forte personnalité, il est connu pour deux illustres batailles, le siège de La Rochelle, mais surtout pour le siège de Montpellier, au cours duquel il sauve 1 000 jeunes soldats des Huguenots aux dépens de graves blessures. Il survit à la bataille car le commandement ennemi, par respect, ne voulait pas tuer un, je cite, si grand et généreux seigneur. Pourtant, malgré ses contributions à la famille royale, le cardinal Richelieu, en quête de pouvoir et ou jaloux selon d'autres sources, force Henri II à quitter son poste d'amiral et le reprend avec plus de pouvoir sous le nom de grand maître, chef et surintendant de la navigation et du commerce de France. Henri II est humilié et a perdu son rôle qu'il tenait tant à cœur. Pourtant, il continue de se battre contre les protestants pour la couronne, ce qui lui vaut en 1630 le titre de maréchal de France. Ayant repris une partie de son prestige et pouvoir, et ayant toujours l'amitié des nobles mécontents du règne toujours plus dur et puissant de Richelieu, il tient rancune envers celui-ci.